Place publique.
Baselworld réduit de moitié, c'est à découvrir dès demain. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour le plus important salon horloger du monde ou est-ce le signe d'un déclin? On en parle dans un instant avec un journaliste spécialisé du journal Le Temps. C'est cette semaine qu'a démarré la semaine d'action contre le racisme dans plusieurs cantons suisses, notamment dans l'arc jurassien. Tout à l'heure, on ouvre la discussion sur notre rapport à l'histoire, notamment quand elle dérange. Comment gérer un passé problématique lorsqu'il prend la forme de monuments ou de bâtiments? Deux historiens sont avec nous après 18h30. Cette semaine, c'est aussi la semaine de la langue française et de la francophonie. Qui de mieux qu'un écrivain et enseignant au lycée cantonal de Pontruy pour nous dire si oui ou non le français se meurt auprès des jeunes générations? C'est une réponse à découvrir en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. C'est toujours le plus important rendez-vous du genre au monde, mais il est cette année réduit de moitié. Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie, s'ouvre demain au public avec deux fois moins d'exposants et une durée raccourcie. Ils sont 700 au lieu de 1300. Mais pour la direction du salon, il s'agit d'opter pour la qualité et non la quantité. Autrement dit, pas lieu de s'inquiéter, on reste les meilleurs, mais on refuse de répondre aux questions des journalistes présents à la conférence de presse durant celle-ci ce matin. Et parmi eux, parmi les journalistes, il y avait notre invité Valère Gogna. Bonsoir.
Bonsoir Gabriel.
Valère, vous êtes journaliste au quotidien Le Temps. Vous co-dirigez la rubrique économique et finances du journal. Alors on voit là des drôles de manières. La direction de Baselworld qui n'accorde pas de temps durant la conférence de presse pour les questions des journalistes, on dirait du Trump. Comment l'interpréter autrement qu'un signe de nervosité?
Oui, alors je pense qu'on peut effectivement parler d'une certaine nervosité, d'une fébrilité de la part de la direction de la manifestation. C'est d'ailleurs les premiers mots qu'a eu Sylvie Ritter, hein, la directrice, lors de cette conférence de presse, en disant « notre branche se trouve dans une période de mutation ». Elle a évidemment entendu les multiples critiques qui lui ont été faites par la presse internationale suisse, mais aussi internationale ces dernières semaines. Beaucoup de critiques sur les organisateurs, sur la négligence de certains pans de cette organisation. Et puis, en effet, à la fin de la conférence de presse, alors qu'habituellement un laps de temps est réservé aux questions publiques des journalistes, là, on a vu des hommes venir faire du tambour et emmener manu militari les différents invités qui étaient sur le plateau, empêchant les journalistes de poser leurs questions.
Alors vous vous êtes baladé au salon, est-ce que cette cure d'amaigrissement, nombre d'exposants divisés par deux, est-ce que cette cure d'amaigrissement frappe le regard du visiteur?
Pour tout dire, a priori pas. C'est-à-dire que quand on entre dans la halle 1, qui est la halle principale du salon, on a les stands des plus gros participants. Je pense aux marques de LVMH, Hublot, TAG Heuer, Zenith, ou Bulgarie. Ensuite on a Rolex, Patek Philippe, l'empire du Swatch Group qui se déploie dans la suite. Donc, a priori pas, les apparences sont préservées. En revanche, quand on monte dans les étages, on découvre que des fabricants de mouvements sont désormais situés au milieu des marches, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent, peut-être pour remplir des vides. On découvre que des pots de fleurs sont placés devant les escaliers roulants qui menaient aux étages supérieurs. On découvre des espaces plus aérés aussi entre les stands. Donc, pour cette journée presse où on peut encore mesurer absolument rien sur l'affluence des visiteurs, pour ce qui concerne la journée presse, on peut simplement observer que oui, il y a des aménagements esthétiques qui ont été faits pour compenser la baisse de fréquentation des exposants.
Bon, alors les murs tiennent encore debout, les apparences sont sauves à vous entendre, mais à partir de quand, à partir de quel moment la maison Baselworld pourrait s'affaisser?
Je crois que la réponse est assez simple. Comme je vous l'ai dit, il y a les piliers de la Halle 1 qui tiennent Baselworld. Ils sont au nombre de 4 ou 5. Je pense que sans Rolex, sans Swatch Group, sans LVMH, sans Patek Philippe, voire sans Chopard, la manifestation perdrait vraiment de sa substance. Tant que ces grandes marques sont là, elles font vivre le salon, elles présentent leurs nouveautés qui attirent les détaillants, les journalistes, les visiteurs, tant que ces marques sont là, la manifestation n'a rien à craindre. Et Sylvie Ritter le disait ce matin en conférence de presse, nous n'avons pas tout le monde, mais nous avons les meilleures marques et les plus convoitées. Richemont fera grise mine en entendant ça, eux qui organisent le salon concurrent en janvier à Genève.
Dont on a beaucoup parlé, hein, d'ailleurs. Et ce salon risque, du coup, de faire de l'œil quand même à ces piliers, à ces géants qui préservent l'intégrité de Baselworld.
Mais évidemment, Patek Philippe ou Rolex sont des marques basées à Genève, donc on peut facilement imaginer, on le sait, que les autorités genevoises sont en dialogue avec les marques. Elles préféreraient avoir forcément un gros événement genevois qui attire ces mammouths de l'horlogerie suisse. Néanmoins, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Baselworld garde sa force de frappe et son attrait, y compris pour ces géants.
Il y a néanmoins eu des erreurs stratégiques de Baselworld qui ont apparemment été largement commentées, vous l'avez dit, mais il y a eu des erreurs stratégiques. Comment vous les mesurez pour qu'un salon concurrent de sous-traitants ait vu le jour à la Chaux-de-Fonds, qui démarre demain d'ailleurs, pour que des marques de la région s'en aillent, même petites, hein, comme Louis Erard ou Maurice Lacroix? C'est la preuve que Baselworld n'a pas fait tout juste.
Oui, alors, tout d'abord, je suis obligé de vous corriger, Maurice Lacroix, ils ont toujours une présence.
Alors, autant pour moi, je n'y suis pas encore allé.
Pas de souci. Mais Louis Erard, effectivement, a quitté le navire. Je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites, mais surtout dans la communication. Je pense que les organisateurs de Baselworld, déjà, ils ont mal réalisé que le monde changeait. Autrement dit, les présentations des mondes se font aujourd'hui sur Instagram. Et c'est un exemple, mais ça montre bien qu'on vit dans un monde globalisé où on n'a plus besoin d'un événement plan-plan avec du champagne et des cacahuètes pour vendre des montres. Je pense que tout a évolué maintenant. Le rôle de ces salons, de ces foires horlogères, il a vraiment évolué. On le voit, le STHH à Genève, ils ont déployé des moyens numériques forts, ils ont ouvert une salle où des conférences ont lieu. Ils ont compris que c'était plus des événements qui étaient organisés pour vendre des montres. Baselworld l'a compris. Alors, peut-être, mais beaucoup plus tardivement.
Alors, Maurice Lacroix est à Baselworld, on le redit, c'est une erreur de ma part. Je pensais plutôt à Richard Mille, hein, sauf erreur, qui elle, cette marque, n'y est pas.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, là, c'est... Allez-y, pardon,
excusez-moi. Je vous disais simplement, finalement, cette édition, pour parler quand même des choses positives, parce qu'il y en a, cette édition, elle intervient dans un climat réjouissant, avec une reprise solidement établie, des exportations qui pourraient atteindre, si ça continue, un niveau même record. En tout cas, c'est plus tabou de le dire ou de l'imaginer. Est-ce qu'on perçoit quand même une forme d'optimisme au contact des exposants ?
Tout à fait. Il y a une bonne humeur, il y a une plus grande légèreté que les dernières éditions qui étaient vraiment plombé par le recul brutal des ventes. Je crois que toute l'industrie horlogère a procédé à une forme de pas forcément une cure d'amaigrissement, mais les marques horlogères ont pris un peu le pouls de leur clientèle. Elles ont réalisé qu'il fallait arrêter d'essayer de monter en gamme à tout prix pour faire du chiffre d'affaires. On voit qu'elles reviennent à des propositions plus raisonnables. Moins de montres compliquées, des montres en acier, des montres qui avant se seraient vendues 6-7 000 francs, se vendent maintenant 1 000-1 200 francs. Elles reviennent à des niveaux plus raisonnables. Et par ailleurs, les détaillants qui sont vraiment le joint stratégique entre le client final et les marques horlogères, les détaillants qui ont souffert de graves problèmes de stock ces dernières années parce qu'ils avaient trop acheté et ne pouvaient plus vendre, ces détaillants, ils ont été aussi aidés par les marques horlogères qui ont procédé à des rachats de stock, c'est-à-dire qu'elles leur ont littéralement racheté des montres pour leur donner une bouffée d'oxygène qui leur permet d'avoir des montres nouvelles qui appartiennent à cette nouvelle gamme plus, disons, réaliste. Et donc, on peut logiquement penser qu'on va vers des heures plus sereines, en tout cas pour l'industrie horlogère.
Et c'est sur cette note d'optimisme, Valère Gognac, qu'on vous laisse retourner à la foire de Bâle. Merci infiniment d'être venu nous donner votre éclairage sur cette manifestation donc, qui s'ouvre au public dès demain. On vous souhaite une bonne soirée, Valère Gognac.
Merci, Gabriel Devecq. Au revoir.
Place publique. Gabriel Devecq.
Pas évident de faire face à l'histoire hein, lorsqu'elle pose problème à notre conscience collective. Un exercice d'autant plus difficile quand cette histoire s'affiche sous nos yeux de manière charmante, pittoresque, avec des statues et de vénérables monuments. Exemple à Neuchâtel, la ville abrite plusieurs vestiges liés à la traite d'êtres humains au XVIIIe et XIXe siècle. Neuchâtel qui doit encore la création de l'un de ses musées à Louis Agassiz, éminent glaciologue, mais aussi l'un des penseurs et promoteurs du racisme scientifique et de la théorie de l'apartheid. Alors à l'occasion de la semaine neuchâteloise d'action contre le racisme qui se tient jusqu'à la fin du mois, les Neuchâtelois sont invités à découvrir ces vestiges de l'esclavage qui ornent leur ville grâce à plusieurs visites guidées. Et une table ronde s'est tenue hier soir au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel et nos deux invités y ont participé. Le plaisir d'accueillir deux historiens. Tout d'abord vous, Nicolas Bancel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notamment spécialiste de l'histoire coloniale et post-coloniale. Vous enseignez à l'Université de Lausanne. Également avec nous, Mathieu Lavoyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes collaborateur scientifique pour la Commission indépendante d'experts sur les internements administratifs. Un autre chapitre de l'histoire problématique, on verra le lien. Et vous animez aussi, vous avez initié les mercredis de l'histoire. Alors Nicolas Bancel, lorsqu'on parle de Louis Agassiz, David de Pury à Neuchâtel, ça évoque tout de suite des noms de rues, des noms de places, des monuments, ils flottent comme un air de prestige. De quoi nous faire oublier hein, que ces deux hommes ont été les acteurs d'une histoire bien plus problématique.
Oui, vous l'avez dit, effectivement, De Pury a œuvré pour beaucoup d'œuvres de bienfaisance à Neuchâtel, mais il était également l'un des promoteurs du système de la traite. En tout cas, il en a largement profité dans ses affaires. Il n'a pas fait que ça, mais enfin, il était l'un des acteurs de la traite triangulaire sur laquelle il a bâti une partie de sa fortune. Quant à Louis Agassiz, effectivement, nous entrons là aussi dans le schéma d'un personnage complexe, puisque c'est une des figures de l'histoire naturelle. C'est un grand glaciologue, un paléontologue reconnu qui a marqué la discipline au XIXe siècle, mais c'est aussi quelqu'un qui a adopté les théories polygénistes racistes les plus rétrogrades, hein, notamment après sa rencontre avec Samuel George Morton aux États-Unis, et qui a promu l'esclavage et a avoué un mépris tout à fait extraordinaire, avec des mots parfois terribles, pour les Noirs.
Mathieu Lavoyer, c'est d'autant plus important de regarder hein, ces personnages complexes, certes, mais de les regarder dans leur globalité, de les regarder en face, pour mieux comprendre un peu les enjeux, hein, qui sont encore des enjeux actuels.
Absolument, et c'est là, je pense, où il y a certainement des liens qui se font. Les études de Monsieur Bancel sur plutôt le colonialisme et mes études à moi qui portent plutôt sur l'histoire sociale suisse du XXe siècle, puisqu'en fait, on essaye de mettre à jour derrière des individus les systèmes de pensée, les cadres de pensée en fait qui ont structuré leur action à leur époque. Et ça nous permet de mettre en perspective aussi nos propres systèmes de pensée. Et c'est là que je pense qu'il y a un intérêt, c'est de dégager finalement ces processus de catégorisation qui ont mené finalement à ce qu'on dit discrimine une part de la population. Ça a eu lieu parfois à l'égard de populations à l'extérieur du pays, mais on peut aussi questionner à l'intérieur même de la Suisse les classifications qu'il y a eu entre une population blanche, mais selon des motifs parfois d'ordre sociaux ou du genre ou d'autres biais en fait qui ont fait qu'on a discriminé à un moment donné une part de la population.
On a l'impression, Nicolas Bancel, que c'est d'autant plus important de bien connaître le profil de ces personnalités. C'est d'autant plus important de le faire qu'il y a très peu de traces dans l'espace public qui mentionnent justement ces actions et leur rôle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tabou ? Par exemple, à Neuchâtel, on parle bien plus volontiers des rêveries de Rousseau.
Oui, sans doute une forme de tabou. D'abord parce que la Suisse a du mal à s'imaginer, étant une nation non coloniale, avoir participé d'une manière ou d'une autre et à l'esclavage et à la colonisation. Mais des travaux récents montrent que la Suisse a, comme les autres nations européennes d'ailleurs, été imprégnée par une idéologie, un imaginaire colonial qui s'est traduit par effectivement un système de classification des entre guillemets races. Et ça s'est produit non pas forcément d'ailleurs à travers les discours scientifiques, mais plutôt à travers des dispositifs populaires, des expositions coloniales, des exhibitions ethniques de ce qu'on a appelé les zoos humains, à travers toute une série de romans, de films, d'images, etc., qui ont vulgarisé en quelque sorte, mais sous un aspect, je dirais, ludique, parfaitement assimilable et accessible pour le grand public, ces idées qui nous viennent finalement de la fin du XVIIIe siècle. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu effectivement, je pense, pédagogique. Comment faire avec ces vestiges? Moi, je ne suis pas pour déboulonner les statues et enlever les plaques. Je suis pour penser l'espace urbain autrement, c'est-à-dire renseigner le public sur ces personnages qui ont construit, qu'on le veuille ou non, notre histoire. Et ça peut être fait à l'aide de plaques commémoratives, ça peut être fait à l'aide de QR codes qui dirigent sur des sites internet dédiés. Il y a beaucoup de manières de faire, mais je trouve plus intéressant d'informer le public sur son histoire plutôt que de la nier.
Alors on va parler de situations concrètes, parce qu'il y en a. Et avant cela, revenir quand même sur cette notion de tabou, Mathieu Lavoyer. Vous avez mené hier, par exemple, un atelier avec des écoliers. Vous les avez interrogés, ainsi que des passants, hein, dans le même cadre, sur cette question des vestiges et comment ils voyaient la suite, comment ils réagissent, et surtout, quelles sont leurs solutions pour se confronter à ce pan d'histoire? Quelles sont leurs solutions pour gérer ce passé qui dérange?
Oui, on a fait cette expérience hier qui était extrêmement intéressante et instructive, pour rappeler finalement que ces questions-là ne sont pas le monopole des historiens. On parle aussi là de mémoire, c'est-à-dire du rapport au passé de nos contemporains et de nos sociétés. Et donc, on a questionné les élèves et aussi des gens dans la rue sur finalement qu'est-ce qu'on fait de ce passé problématique. Et j'ai été époustouflé par la qualité des réponses, d'une part des élèves, puisqu'ils avaient entre 12 et 14 ans, mais ils étaient vraiment intéressés à répondre à ces questions et à trouver des solutions très concrètes. Et d'autre part aussi à la connaissance qu'avaient les gens dans les rues de Neuchâtel de ces questions-là. Et ce qu'il en ressortait, c'était qu'il ne fallait pas, d'une part, occulter l'histoire qui dérange, mais d'autre part, qu'on ne pouvait pas maintenir un statu quo actuel où finalement on ne thématise pas assez les choses. Et donc tout le monde insistait sur la nécessité d'en parler, d'informer, de jouer la transparence, hein, par la pédagogie que rappelait M. Boncel. Et je pense que ça passe par différentes choses, mais il y a eu des propositions vraiment fabuleuses, notamment d'intégrer davantage ça dans les manuels scolaires, et ça venait des élèves eux-mêmes, ou bien alors par la pose d'un certain nombre de panneaux didactiques en ville de Neuchâtel, où on peut encore parler des fameuses visites qui ont lieu maintenant en ville de Neuchâtel.
Alors des positions, hein, y compris celles de ces élèves, y compris celles de M. Boncel, y compris la vôtre, des positions quand même assez mesurées. On pourrait imaginer que l'histoire dont on parle et les notions dont on parle sont suffisamment violentes et dévastatrices par leurs effets pour avoir des propositions autrement plus radicales. Comment expliquer cette mesure, Nicolas Boncel?
Alors expliquer cette mesure, après on peut bien sûr discuter de personnages vraiment particulièrement abominables, mais moi je suis pour l'information, c'est-à-dire je pense que si on retire les plaques et les statues, ma foi le public n'en saura rien, n'en saura pas plus, c'est pas vraiment intéressant. Je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de nous informer finalement sur la contemporanéité, sur l'actualité de ces problèmes que vient de souligner mon collègue. Donc il me semble qu'une action, des actions pédagogiques qui peuvent se décliner en de multiples manières, par des documentaires, par des expositions, par des panneaux, comme il vient d'être suggéré, par tout un tas de dispositifs, me semble beaucoup plus approprié, non pas pour effacer cette histoire, mais pour profiter de ses leçons, si vous voulez.
Et comment vous évaluez, Nicolas Boncel, toujours, par exemple, ce qu'a fait le Muséum d'Histoire Naturelle, avec son portrait imposant de Louis Agassiz? Est-ce qu'il aurait dû le cacher soigneusement, aller le voiler au Galta, ou est-ce qu'il a bien fait de le garder quand même dans le hall?
Alors, ils l'ont gardé dans le hall, ils l'ont un peu tourné en dérision, en le mettant dans un cabinet des curieux, mais... Alors, je suis bien sûr très, très respectueux des décisions du musée, mais je pense qu'il y aurait peut-être, c'est ce que j'ai suggéré d'ailleurs pendant la conférence, qu'il y aurait peut-être d'autres moyens d'utiliser ce tableau. Hein. Ce tableau, il est là, et même si dans un cabinet des curieux, le public n'est pas forcé de comprendre finalement pourquoi il est là. Moi, je pense qu'une explication, un cartel large, là aussi, qui peut renvoyer sur des informations plus larges, sur qui a été Louis Agassiz, à la fois comme glaciologue incontesté, comme paléontologue, mais aussi comme raciologue, comme esclavagiste, me paraîtrait une idée intéressante, parce que ça fait partie de l'histoire du musée. Je pense que c'est une histoire aujourd'hui, elle est lointaine, même s'il y a des répercussions contemporaines, c'est une histoire qu'on peut assumer.
Une histoire douloureuse qui nécessite quelque part une forme de réparation de la part des personnes qui se sentent blessées, heurtées par cette histoire, Mathieu Lavoyer, ça reste quand même un enjeu qui ne touche pas forcément ces figures du 19e siècle, ça touche aussi des enjeux plus actuels. Par exemple, vous travaillez, hein, je l'ai dit en début d'émission, dans une commission d'experts chargée de traiter, d'éclairer l'histoire des internements administratifs.
Oui, là, pour une période extrêmement récente, puisqu'on parle d'événements qui ont survenu jusqu'au début des années 80 avec des survivants, donc on fait aussi une part d'histoire orale. Est-ce que j'ai réalisé dans le cadre de ce travail-là, c'est finalement que l'historien ne peut ni préparer le passé, ni rendre justice, ce n'est pas son rôle. Par contre, je pense qu'il a une responsabilité dans le travail de mémoire qui est fait. Et je pense que le plus important qu'on peut apporter comme historien, c'est peut-être de rendre la parole à ceux qui ont été écartés du récit historique. Et je pense que de réintégrer ces individus, que ce soit un esclave du 18e siècle ou un interne administratif du 20e siècle, les réintégrer comme des acteurs de l'histoire à part entière et aussi les sortir de leur rôle de victime passive, mais bien montrer qu'eux-mêmes avaient des stratégies de résistance et qu'ils avaient une identité propre, ça me paraît en fait participer à ce qu'on pourrait appeler de la réhabilitation en quelque sorte. Et ça enrichit le récit historique. Donc finalement, on écarte encore les frontières de l'histoire et on enrichit le récit historique.
De manière très concrète, ça veut dire mettre à disposition du public des sources, des récits qui mettent en valeur justement ces trajectoires.
Oui, et pour l'historien, c'est aussi aller chercher ces sources. Pendant longtemps, on a quand même fait l'histoire par les élites, pour les élites. Et donc là, c'est aussi finalement, encore une fois, rendre la parole à ceux qui en étaient écartés parce qu'on la jugeait peu pertinente. Ça peut passer par l'histoire orale, ça peut passer aussi par le traitement d'un certain nombre de sources qui ont été sous-estimées. Notamment, on peut penser peut-être pour des époques plus lointaines au colonialisme, à peut-être retrouver là, tout d'un coup, la parole de ceux qui étaient eux-mêmes soumis à l'esclavage.
Nicolas Bancel, en France, le débat est autrement encore plus vif qu'en Suisse, dû à l'histoire aussi et au lien de la France avec ses colonies. Quel regard vous posez sur cette démarche étatique ou collective de la repentance ? Est-ce que vous pensez que, même en Suisse, pour les cas dont on vient de parler, cette notion de repentance publique est nécessaire ? Est-ce qu'elle est pour vous, au niveau politique, un aboutissement logique et voire même une façon assumée de prendre acte de l'histoire ?
Écoutez, moi, je n'en suis pas sûr à dire vrai, parce que ça a introduit un rapport qui est de culpabilité, qui est toujours un rapport asymétrique. Moi, je pense que ce que vient de rappeler mon collègue est très juste, c'est-à-dire l'important, c'est quand même l'action de reconnaître cette histoire. La France a beaucoup de mal, par exemple, encore aujourd'hui avec la guerre d'Algérie. Il y a eu des progrès de fait incontestables depuis les 20 dernières années. On parlait tout à l'heure des manuels scolaires. Aujourd'hui, les manuels scolaires intègrent assez largement quand même l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, avec un regard critique, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc des progrès ont été enregistrés. On a maintenant des expositions qui ont porté sur ces sujets dans des grands musées nationaux. Je crois que là aussi, les choses avancent. Alors, je suis pas sûr que la repentance soit absolument nécessaire. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais je pense que ce qui importe avant tout, c'est d'intégrer finalement cette histoire, avec ses parts d'ombre, ses parts parfois très sombres, parce que nous sommes une société moderne, nous sommes une société aussi multiculturelle, désormais, et je pense que c'est important de comprendre les enjeux de ce multiculturalisme qui sont éclairés, je dirais, par cette longue et parfois douloureuse histoire.
Mathieu Lavoyer, même question à vous, est-ce que vous voyez un jour les autorités de la ville de Neuchâtel dire pardon au nom des profits de David de Pury tirés de la traite d'êtres humains ?
Ça pourrait contribuer à un acte symbolique. Je pense que, comme ce qui a été rappelé durant le débat, c'est qu'il y a tout un effort pédagogique à faire. Et là, je pense qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui. C'est vrai que si on se balade autour de la statue de Pury, on remarque qu'il est encore présenté comme le bienfaiteur de la ville sans forcément mention. Moi, je pense que c'est des supports en fait auxquels on peut accrocher la mémoire et les récits historiques. Et on peut profiter, transformer en opportunité ces récits. Peut-être juste encore dire une dernière chose. C'est que j'ai été surpris par le caractère très constructif des discussions qui ont eu lieu ces derniers jours sur ces questions-là et peu polémiques. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être facile aussi de critiquer et de mettre à bon l'esclavage du 18e siècle. C'est peut-être plus difficile quand on essaie de se mettre d'accord sur quelles sont les formes modernes d'asservissement de l'homme. Et c'est là aussi où comme le disait mon préopinant, l'histoire peut aussi apporter un éclairage sur des questions très contemporaines. Et c'est quand on abordera les questions contemporaines que peut-être les difficultés, les sensibilités vont ressortir. Puisque admettre qu'aujourd'hui encore, les occidentaux vivent aux dépens d'une partie du monde plus précarisé, ça peut engendrer là des discussions peut-être un peu plus vives.
C'est là que l'historien met la balle dans notre camp, le camp de la collectivité, notre camp à tous. Merci à tous les deux, Nicolas Bancel et Mathieu Lavoyer, d'être venus nous parler donc de cette manière de gérer cette histoire problématique. Bonne soirée à tous les deux.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Place publique.
Et il est temps de se rendre au chevet d'un grand malade, la langue française. Pour certains, elle est aux abois. Notre langue régresserait sous les assauts incessants de l'idiome anglo-saxon. Les anglicismes seraient donc l'un des pires périls qui soient. Mais ce n'est pas le seul. La déconfiture de l'école, le politiquement correct, le marketing et j'en passe, seraient autant de facteurs qui font dépérir la langue de Racine, Molière, Chateaubriand et Proust. Alors, warning ou bien keep calm, lâchez vos smartphones, il est temps de brainstormer ensemble avec un boss de la langue française, un prof de lycée de Porrentruy. Voyons avec lui s'il faut s'alarmer, smiley fâché ou s'il faut espérer, smiley qui rit. Bonsoir Michel Angy.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant de français au lycée cantonal de Porrentruy, vous êtes aussi écrivain. Alors vous enseignez depuis 20 ans, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous tirez vous aussi une forme de sonnette d'alarme? Est-ce que pour vous le français se meurt?
Je ne tire pas la sonnette d'alarme parce que j'estime que c'est la dernière posture qu'on doit attendre d'un professeur. Moi, je porte un regard un petit peu plus distant, un petit peu plus critique sur ces cris d'alarme. Je pense quand même qu'il y a dans ces postures une méconnaissance de ce qu'est une langue et puis des amalgames qui rendent le dialogue compliqué entre conservateurs et progressistes. Je pense qu'effectivement, défendre la langue est une chose salutaire, c'est une chose louable, dans la mesure où la connaissance de la langue, le bien parler, garant d'une communication optimale, harmonieuse, dans la mesure où une expression est un facteur essentiel de structuration de la pensée, de confiance, d'intégration sociale. En ce sens, à chaque moment de notre histoire linguistique, nous devons sans doute diriger des normes, d'admettre des sens précis aux mots. Et mon exigence de professeur est liée justement à ce désir de faire de chaque élève un locuteur compétent, enthousiaste et crédible. Mais pour autant, cette ambition-là, de mon point de vue, n'a rien à voir avec un quelconque conservatisme.
Donc vous ne figez pas la langue française, hein?
Non.
Est-ce que sur le temps long, hein, pour aller de 20 ans d'expérience quand même, est-ce que vous ne remarquez quand même pas des évolutions, hein? Je ne parle pas forcément en mal ou en bien, mais il y a des évolutions sans doute.
Alors des évolutions, c'est heureux, mais j'ai envie de dire que...
Parmi vos élèves,
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est heureux. Comme je le dis, on peut aimer la langue, la défendre, la promouvoir, l'illustrer et admettre parallèlement que la langue, elle est l'émanation des hommes, qu'elle vit avec eux, qu'elle évolue avec eux. C'est ce qui me fait plutôt voir les évolutions de manière positive.
Mais si on parle concrètement, par exemple, l'orthographe, okay. Tout le monde dit que l'orthographe, elle n'existe plus, que c'est plus du tout un prérequis, que les jeunes écrivent n'importe comment, le but c'est de se faire comprendre. Est-ce que là, on est clairement dans la caricature, ou est-ce que d'année en année, vous avez l'impression de devoir en mettre des couches et des couches supplémentaires à des stades de plus en plus élémentaires?
Alors moi je porte pas un bilan aussi radical et puis je n'exprime pas de telles inquiétudes. Mon inquiétude, ma vraie inquiétude par rapport à la langue française, c'est qu'on se désintéresse de sa propre langue, qu'on se coupe de ce qu'elle porte d'histoire, de souvenirs, d'identité. Alors mes élèves, les jeunes en général, maltraitent sans doute le français plus qu'on ne le faisait avant, ce qui d'ailleurs demande à être vérifié, mais ça ne me gêne pas s'ils en jouent de cette langue, si la langue qu'ils parlent elle résonne en eux, s'ils se reconnaissent en eux. Finalement, aujourd'hui, on enseigne dans ces écoles qui sont censées être les garantes du bien parler et puis d'une certaine hauteur de vue, on enseigne Raymond Queneau, Blaise Cendrars, et on s'extasie de leur style qui pourtant était des coups de pied dans la fourmilière. Alors il y a sans doute des indicateurs très clairs qui peuvent dénoter un certain appauvrissement, certaines incompétences plus grandes qu'à une certaine époque, et puis il y a sûrement mille raisons à cela. Ce que je constate moi, c'est que d'une manière générale, les difficultés, elles ne proviennent pas tant d'incompétence au sens le plus strict, le plus désenchanté, le plus terrible du terme, que d'un désintérêt plus global et puis de l'absence de ce que moi j'appelle une hygiène de travail, une absence de vigilance de tous les instants. Et sans doute, les nouveaux moyens de communication n'est-il pas à être très vigilants parce qu'ils produisent de messages courts. Et puis la culture dominante de l'instant et du loisir favorise sans doute tout ça. Mais d'une manière générale, les jeunes sont plutôt capables et très capables, quand ils le souhaitent, d'écrire correctement. Ce qu'on doit aujourd'hui faire comme effort tout particulier qu'on ne devait peut-être pas faire avant, c'est rappeler l'intérêt qu'il y a à aimer sa langue, à parler sa langue, à la défendre. Mais pour moi, et ça c'est vraiment un élément très important, pour moi la défense, la promotion, l'illustration n'a rien à voir avec le conservatisme, parce que voilà, l'évolution, la langue fait, comme je le disais, l'émanation des hommes, et il est normal qu'elle évolue avec elle, évidemment.
On accuse aussi le français de sexisme, hein, ou de véhiculer des stéréotypes. Il est plus que jamais question d'écriture inclusive, donc qui vise à éviter toute discrimination liée au choix des mots, hein, liée au genre, à l'ethnie ou à une maladie. On ne dit plus par exemple un handicapé, mais une personne en situation de handicap. Comment vous positionnez en tant que professeur sur ces questions? Est-ce que vous êtes proactif, comme on dit, ou est-ce que vous gardez une certaine réserve?
Écoutez, je crois qu'une partie des problèmes existe à partir du moment où on les nomme, sans les nier pour autant. Le sexisme, supposé, mais disons, admettons, le sexisme de la langue française, c'est sans doute un fait qui procède d'un conservatisme à tout va, forcené, et puis d'admettre une langue plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Donc oui, le français est relativement sexiste, comme le sont d'ailleurs toutes les normes, toutes les lois érigées en leur temps par les hommes. Donc de ce point de vue-là, même si la question du langage épicène, ou voilà, d'écriture inclusive, il y a plein de noms pour la qualifier, n'est sans doute pas, de mon point de vue, le combat prioritaire en termes de féminisme. Je le comprends parce qu'il est symbolique, et le monde se nourrit d'abord de symbolisme. À ce titre, je cautionne qu'on essaye de changer certaines pratiques. Maintenant, cette évolution-là ne doit pas aller dans tous les sens, se faire dans l'urgence pour répondre à je ne sais quel lobby. Elle ne doit pas se faire, par exemple, au détriment de la beauté de la langue, de la poésie, de la musique, des mots. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'écriture inclusive, et les écrivains, de manière générale, ne se gênent pas de souligner le problème.
Et même Michel Angy, justement, vous êtes écrivain aussi. Dites-nous un peu plus de votre lien avec le français. Et puis, s'il fallait lui déclarer comme une flamme d'amour, vous lui diriez quoi au français?
Bon, ma pratique d'écrivain, évidemment, en premier lieu, elle se nourrit du besoin d'écrire, d'un amour de la langue, d'en jouer, de la faire résonner en moi. Voilà, ça, c'est le propre de tous les écrivains, que d'aimer la langue et puis de jouer. Mais c'est vrai que c'est aussi une activité qui m'éclaire, qui me guide, qui nourrit ma pratique d'enseignant. Je viens d'un milieu familial d'enseignants qui considèrent qu'effectivement il faut être acteur, il faut être praticien. On peut pas enseigner le dessin sans dessiner, on peut pas être géographe sans voyager. Et moi, c'est vrai que cette pratique courante, parfois quotidienne, parfois moins selon mes activités d'écrivain, elle me permet de porter un regard beaucoup plus lucide sur la pratique des autres écrivains. Elle me permet surtout d'être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus empathique, parce que j'ai une vague idée de ce qu'est la page blanche et les difficultés à l'écriture. Et puis, elle est intéressante parce que, en termes de crédibilité, mes élèves sentent qu'effectivement, quand je parle de littérature, c'est une chose incarnée, c'est une chose passionnée, et c'est une chose que j'ai pratiquée moi-même avant de porter un regard froid et distant. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une grande déclaration à la littérature française.
Bah, ça en est déjà une.
C'est les ouvrages que j'écris, mais je leur donne pas de, je ne porte pas de regard, je ne sais pas ce qu'ils valent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire,
c'est de pratiquer et enseigner.
Voilà, c'est ça.
Merci infiniment, Michel Angy, d'être venu dans Place Publique nous parler de l'enseignement du français qui a encore de beaux jours devant lui auprès de vos élèves et aussi sous votre plume. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt dans Place Publique.
Merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir.
Place publique.